Alors là maintenant, si on passe aux modalités de financement de cette opération, donc on a vu qu'on avait un coût de 81 de mémoire, c'est cette partie-là. Faut que je retrouve mes petits, mais je pense que c'est bon. Je suis perdu avec mes propres trucs, mais ça va revenir. Ok, bon, on va commencer par ça. Au moment où vous avez stabilisé l'immeuble, ça vous avez construit l'immeuble et vous rapporte 5 millions de profits de loyer par an. D'accord? Donc vous avez 5 millions de loyer par an. Vous payez quelqu'un qui s'occupe pour vous de gérer l'immeuble. Vous avez 700 000 en moins et vous payez les intérêts chaque année. Vous avez ça. Donc vous avez un revenu net de 3 millions à peu près. Et à ce moment-là, vous avez des fonds propres qui restent investis dans votre opération à hauteur de 23 millions ici. Donc là, le flux de revenus que vous ramène votre actif par rapport à vos fonds propres, c'est un ratio qu'on appelle dans le jargon financier le cash on cash. Donc vous avez une rémunération de vos fonds propres de 13%. 13%, c'est ni bien ni mal, mais c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que vous avez soit l'opportunité de laisser votre argent là, puisqu'elle est grassement rémunérée, soit de vendre le bien et d'empocher votre profit. Vous n'êtes pas sûr que le profit, vous allez le produit de cession, vous allez pouvoir, enfin le produit net de cession, donc la distribution que vous avez récupérée, vous allez pouvoir le replacer à ce montant-là. Donc une autre façon de dire les choses, à un moment donné, si vous avez suffisamment capté de valeur parce que vous vous retrouvez avec très peu de fonds propres finalement pour quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent, vous avez une question qui s'offre à vous. Est-ce que vous laissez votre argent placé à cet endroit-là avec ce niveau de rémunération? Ou est-ce que plutôt vous le récupérez pour le réinvestir ailleurs? Et si vous n'avez pas d'autres opportunités de réinvestissement, ben, il vaut mieux le laisser placé tel qu'il est là. Les autres trucs, ça. Oui, alors l'equity multiple, c'est que en gros, on a. Quand vous. On va le voir sur le graphe, sur le truc suivant, ça va être beaucoup plus simple. Donc ici, on a une espèce de cash flow synthétique où en gros, on a dépensé 35 au départ. On a dépensé ensuite 35 sur 2 ans pour construire. Pendant toute la période, on a payé des honoraires, un peu plus pendant la construction, un peu moins après. On encaisse des loyers et après, on a le produit de cession. Donc c'est un truc un peu synthétique. C'est une opération où en gros, je dépense 72, ça me rapporte 40. Et j'ai un taux de rendement sur ce que j'ai dépensé de 11%, donc c'est comme si j'avais eu 11% tous les ans et qu'à la fin j'avais récupéré mon argent. C'est pas mal, mais ça consomme trop de fonds propres. Donc en fait, ce que l'on va faire, on va aller recourir à de la dette pour dépenser beaucoup moins d'argent. Donc là, on va lever à peu près 50 de dette, donc on va diminuer 50 les besoins de fonds propres, on va avoir 26, on a un produit qui est moins puisqu'on paye des intérêts et des frais fixes au départ sur la dette, mais on a bien évidemment un taux de rendement qui est plus important. Si on passe à la partie fiscale, etc., on arrive à des éléments où ce qu'il est intéressant de comparer, ce n'est pas simplement le TRI, parce que le TRI, ce n'est pas ce que vous dépensez à la fin du mois ou tous les jours, et ce n'est pas ce qui vous a cumulé. Le TRI, c'est bien pour avoir une idée du risque de votre opération, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est le rapport entre l'argent que vous avez mis et l'argent que vous allez recouvrir derrière. Ce qu'on appelle en gros le multiple d'equity. Alors, en général, dans un cas comme ça, où on a mis 25, on récupère 25, on serait tenté de dire qu'on a récupéré autant que ce qu'on a mis. En langage financier, on dit qu'on a un equity multiple de 2, c'est-à-dire qu'on a mis 25, on a récupéré 2 fois 25. Pourquoi? Parce qu'on a d'abord récupéré l'argent qu'on avait mis, plus nos 25. Cette problématique est une problématique qui est essentielle aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir des opérations dont le sous-jacent reste acceptable. Et vous pouvez penser à des opérations d'aménagement qui vous concernent, où en gros, il y a ça à dépenser. On arrivera plus ou moins à faire ça, on aura ça de marge. Le seul problème, c'est que ça consomme beaucoup de fonds propres et que vous ne les avez pas. Donc normalement, pour que ce soit intéressant, et en plus, si vous faites que ça, vous avez un equity multiple qui est très pauvre. Vous avez un equity multiple de 1,5. Ce que vous encaissez, c'est la moitié, en gros, de ce que vous avez mis en profit. Donc si vous arrivez à avoir des quantités de financement décentes, vous pouvez avoir un equity multiple qui est intéressant et qui rend votre opération réalisable. Mais si ce n'est pas le cas, tant bien même l'opération intrinsèquement elle est intéressante, elle ne sort pas. Parce que vous n'arrivez pas à trouver suffisamment d'aide. Et cette problématique est fondamentale. Pourquoi? Parce que votre opération, pour qu'elle sorte, il faut qu'il y ait des gens qui soient capables d'investir et dans cette opération et de prendre des risques. Et ces gens-là ont pour habitude habitude, enfin avaient, on ne sait plus maintenant s'ils existent encore et ce qu'ils vont devenir, mais avaient pour habitude d'aller chercher non seulement des théories élevées dont on parle souvent, mais surtout des écoutilles multiples importants, de l'ordre de 2. C'est-à-dire qu'en gros, le risque doit être rémunéré, pas simplement en théorie, mais aussi en profit. Alors, si là, on a en superposition les éléments synthétiques de l'opération qu'on a là, où en gros, on vend 3 ans après avoir livré. Si on vend 8 ans après avoir livré, qu'est-ce qui se passe? On a les mêmes postes de dépenses, on a un petit peu plus de management fees, puisqu'on porte l'opération pendant plus longtemps, okay, on encaisse des revenus, et à la fin, on a, là en espèce, ça ne devrait pas être le cas, mais supposément le même produit de cession, mais qui vient plus tard. Donc là, on a un equity multiple qui est meilleur. Pourquoi? Simplement parce qu'il s'agit d'une opération qui a un taux de rendement intrinsèque une fois qu'elle est livrée, qui est très très intéressant. Ça altère un petit peu le TRI de la portée. On passe de 18,3 à 13,5, mais c'est pas forcément une mauvaise chose, puisqu'entre-temps, on augmente énormément le profit. Donc si on considère qu'entre l'année 5 et l'année 8, l'actif ne va pas perdre de valeur, on a tout intérêt à le porter. Cette problématique-là, qui est ici, est présentée de façon très très simpliste sur du sous-jacent immobilier, vous avez la même sur les sous-jacents fonciers. Vous avez des foncières qui ont massivement acheté des terrains pour faire du résidentiel, notamment en Pologne. Il y a une foncière qui s'appelle Orco, qui n'est pas très bien en point en ce moment, mais qui a acheté massivement des droits à construire des terrains pour faire du résidentiel en Pologne. Le marché du logement en Pologne est un marché qui était jusqu'à présent en expansion et qui subissait une forte inflation. La question qu'on peut se demander quand on est dépositaire de terrain comme ça, c'est est-ce qu'on a intérêt à les vendre tout de suite, à vendre le foncier tout de suite, ou à avoir une situation où, contrairement à là, on n'a pas de revenus pendant la période, mais on va les vendre beaucoup plus cher demain, parce que demain, le marché va être beaucoup plus intéressant. Donc souvent, on a des situations où la vision financière des choses impose de mettre avec parcimonie le foncier sur le terrain, parce que le mettre massivement, c'est aussi détruire la valeur, puisqu'en gros, vous augmentez l'offre, et donc du coup, ça fait baisser les prix. Donc vous avez vraiment un impact très très important à ce niveau-là. Donc ça, je ne veux pas trop rentrer là-dedans, ça va être un peu trop compliqué, et ça non plus. Alors si on finit très rapidement là-dessus, vous avez, pour simplifier, plusieurs types d'actifs. Donc vous avez des actifs qui produisent des revenus. Alors, en matière d'aménagement, en matière foncière, c'est un peu rare, ça n'existe pas vraiment, mais ça peut être le cas. Si vous avez un bail emphytéotique, ben vous avez un terrain, il vous ramène un loyer, et puis à la fin, vous avez le prix de cession du terrain si vous voulez le céder. Mais bon, en immobilier, c'est plus courant. Donc ces actifs-là, a priori, ils ont une approche financière qui est assez simple. On a un revenu locatif qui peut plus ou moins augmenter, donc on peut être au bleu, on peut être avoir le gris en plus, ou on peut être plutôt en bas, on a un multiple, et le produit, enfin en général c'est l'inverse d'un taux de cap, mais c'est la même chose, et le produit des deux fait la surface et fait le prix. Donc vous avez une espèce de dialectique sur la valeur de votre bien qui dépend en gros de son revenu et de son multiple. Alors pourquoi on raisonne comme ça? Parce qu'on suppose en fait que les flux sont tellement certains qu'ils sont quasiment perpétuels et que mathématiquement, de diviser par le rendement, ça revient à exactement à la même chose que d'actualiser les flux. Alors, vous ne regardez pas ça parce que vous allez vous faire mal aux yeux, vous regardez ça. Donc si on considère que le revenu est constant, et si financièrement vous faites l'actualisation de ces flux-là, que ça soit indexé ou pas, ça, ou même si vous considérez que vous avez les flux indexés qu'à un moment donné vous vendez, vous avez la même chose. Donc une autre façon de dire les choses, si vous avez un immeuble qui rapporte 6 millions par an, et que vous êtes sûr que pendant toute la vie il va rapporter 6 millions par an, vous voulez que cet immeuble vous rapporte du 6%, mais il vaudra toujours 100. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Malheureusement, la vie n'est pas si simple, parce que souvent les immeubles, ils ont plutôt une vision erratique, que vous subissez ou que vous organisez. Imaginez que vous achetez un immeuble qui n'est pas bien loué, imaginez que vous positionnez sur un terrain dont on n'exploite pas suffisamment la rente foncière, ben vous allez organiser la vacance. Donc pour un immeuble, vous allez virer les locataires. Pour un terrain, vous allez faire exploser la maison où il y a la vieille dame, de façon à le libérer et à pouvoir construire autre chose à la place et densifier. Et donc ça nous amène à des méthodes d'appréciation de valeur beaucoup plus compliquées que simplement diviser 6 par 6%, où on est obligé, malheureusement, de modéliser le détail et passer à l'approche des flux et modéliser les flux. On a un autre type d'actifs qu'on appelle des vaches à lait, en gros. Donc c'est un actif, c'est un peu la symbolique de ce barrage-là. C'est, vous avez une réserve d'eau qui est limitée, qui est définie, puis il y a un trou, et puis donc vous agrandissez le trou pour avoir le plus de pognon possible au départ, et puis à la fin, bah, vous avez pris tout le lait de la vache, et la vache, elle meurt, quoi. Donc vous n'avez plus de valeur derrière. Donc les analogies comparables, c'est soit des forêts, vous coupez les arbres, vous n'en replantez pas, ou des carrières, et vous ne rachetez pas de carrières, donc au bout d'un moment, il n'y a plus rien dedans. Et l'extrême, c'est l'île de Pâques, où ils ont coupé tous les arbres, puis à un moment donné, il n'y a plus d'arbres, ils sont tous morts, quoi. Bon, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Alors ça peut paraître excessif, mais vous avez beaucoup d'actifs immobiliers dont la valeur se limite uniquement à leur capacité, qui est limitée dans le temps, de produire des revenus. Bon, on sait très bien qu'ils vont être obsolètes, et après, il va rien se passer d'autre. Donc vous pouvez très bien avoir comme stratégie d'acheter ces biens-là, d'avoir simplement comme stratégie, non pas d'espérer un gros flux final, mais d'espérer pendant la période d'avoir de façon assez grasse des flux intermédiaires. Donc, si vous croisez les critères, est-ce que j'ai un risque sur mes revenus? Donc, est-ce que mon revenu locatif est sûr? Ou est-ce que j'ai un risque sur ma valeur finale? Vous avez ce que tous les gens adorent. En tout cas ce que les investisseurs ou les financiers qui ne veulent pas prendre risque adorent, ce qu'on appelle des actifs trophées, sont les actifs qui se modélisent sur la base de diviser le loyer par un taux de cap, parce que ça, c'est sans souci. Vous avez à l'autre extrême des gros nanars, donc c'est des trucs, vous n'êtes pas sûr d'avoir un revenu locatif et vous n'êtes pas sûr de la valeur non plus. Mais ça, c'est intéressant quand même, parce que ça se prête, c'est la capacité de valoriser ça et être capable d'apprécier la valeur dans l'univers compétitif, ben, ça peut être intéressant. Vous avez l'exemple des vaches à lait que vous avez là, vous savez très bien qu'il n'y a pas de valeur résiduelle, mais vous avez des revenus qui sont plus ou moins sécurisés. Et l'autre extrême, qui correspond à une situation où vous avez des risques sur les loyers, mais pas de risque sur la valeur. Et un exemple comme ça, c'est un terrain ou une opération spéculative de bureau. Vous êtes sûr que vous n'avez pas vraiment avoir de revenus, mais en revanche, si vous arrivez à faire bien le travail, vous allez avoir une valeur résiduelle significative. Alors j'essaie d'avancer rapidement, mais ça c'est Milan. Ça se voit pas, mais c'est Milan. Ok. Et donc en gros, vous avez dans Milan, là vous avez l'aéroport, et ici par là vous avez le Duomo. Donc je sais pas où sont les petits numéros. Ah oui, si c'est là. Donc en gros, Milan, bon, c'est pas une très très grande ville, mais offre tous les types d'actifs immobiliers pour quelqu'un qui veut prendre des risques et les financer. C'est-à-dire que vous soyez un investisseur, et ce n'est pas le propre qu'à Milan, hein, toutes les villes sont comme ça, que vous soyez un investisseur qui veut peu de risques et qui accepte d'avoir peu de rendement, ou quelqu'un qui veut faire des choses très très spéculatives et qui veut avoir beaucoup de rendement, mais qui est prêt à prendre beaucoup de risques, vous pouvez vous éclater comme vous voulez à Milan, vous pouvez acheter n'importe quoi, il y a de tout. Donc vous pouvez être dans l'hypercentre, où vous faites des bureaux très très bien placés, un palace. Vous pouvez acheter le Rinascente, le grand magasin en face du Duomo, vous pouvez faire du résidentiel de luxe qui se vend 12 ou 13 000 euros du mètre à Milan, ou comme vous pouvez aller à la périphérie pour faire du logement social, de l'industriel ou des hôtels économiques, vous avez vraiment toutes les possibilités. Ce qui veut dire que par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce de tropisme vers le centre, les financiers, que ce soit les gens qui mettent des fonds propres ou les gens qui les financent, se foutent un petit peu de ça, dans la mesure où ils arrivent à pricer le risque. Mais si vous leur demandez de payer ici le prix d'un truc qui est là, ou d'acheter ça, ou de financer ça avec un modèle financier qui correspond à ce qui est là, là, ils ne vont pas forcément être d'accord. Et le problème que ça pose, c'est que souvent, le terrain disponible est plutôt par là. La façon optimale de valoriser, c'est de faire plutôt ce qu'on trouve là, et on a du mal à trouver les adéquations, en général. Ça, c'est la même chose. Donc ça, c'est ça c'est un peu ce qu'on a dit. Ça, c'est un modèle mathématique sur la dispersion. C'est les deux mêmes populations, et qui, là, avec un coefficient de dispersion... Là, en gros, c'est une population, un exemple normal, je ne sais plus quel exemple c'était. Donc la ville est comme ça. Et là, quelle aurait été l'emprise de la ville si on avait tout mis au même niveau? Donc, vous voyez que si on n'a pas de centralité et de densité au centre, on est beaucoup plus consommateur d'espace et de besoins de communication. Et là, vous avez des densités de population par rapport à la distance du centre. Donc vous voyez que plus vous vous éloignez du centre, moins il y a de population, ce qui est une évidence. Et c'est vrai pour des villes comme Paris, New York ou Berlin. De façon assez intéressante, la vision qu'on a eue tout à l'heure sur l'île de France avec la carte MOS, vous avez à peu près la même chose sur New York et Manhattan. Vous voyez des zones très très denses. Il faut faire attention, ce commercial pour eux c'est du bureau, donc de bureaux qui sont en rouge, des zones industrielles qui, comme sur la carte MOS, sont en violet, et vous avez énormément de terrains qui correspondent à de la faible densité. Alors pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, donc ça c'est des cartes qui correspondent aux opérations de promotion immobilière de plus de 5 000 m² entre 2001 et 2005, je crois, de mémoire, qui sont faites par l'IORIF. Donc ici, ce sont des opérations qui sont faites en cause de droit, d'accord ? Et en haut, ce sont des opérations qui sont faites en cause de fait. C'est-à-dire qu'en gros, ici, on a la possibilité de produire des immeubles de bureaux, simplement en utilisant la capacité qu'a le sol de générer de la densité, et en général, c'est ce qu'on exploite. Et là-haut, on ne le fait pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a un numerus clausus sur le bureau dans le centre de Paris, et que la seule façon de refaire du bureau à cet endroit-là, c'est de le faire là où il y avait déjà des bureaux qui préexistaient. Bon, ça, c'est des trucs qui ne vont pas vous servir à grand-chose. Pour finir, avant de passer la parole, et avant de laisser Marc vraiment nous parler de finances et de banquiers et du comportement actuel, un petit rappel qui est assez important et qui va mettre en perspective tout ce qu'on vient de voir assez rapidement. Il faut absolument toujours que le risque et le profit soient corrélés. Dans tous les marchés, vous avez un truc qui correspond à zéro risque et qui rapporte un petit quelque chose. À notre un niveau, c'est l'argent qu'on a mis à la caisse d'épargne. L'argent qu'on met à la banque, pour l'instant, on ne sait plus si c'est sans risque. Mais bon, avant, l'argent qu'on met à la caisse d'épargne, jusqu'à 70 000 €, on va dire, c'est sans risque. D'accord ? Ça rapporte que dalle. 2, quelque chose après impôt, mais c'est sans risque. On est sûr qu'on va avoir les intérêts et on est sûr que ça va, qu'on va pouvoir récupérer notre argent quand on veut. Ben, on était sûr. Juste avant la guerre, on était sûr. Donc, par opposition, on a sur le marché des choses qui sont plus risquées, des actions par exemple, et qui normalement rapportent plus. Bon, c'est pas toujours vrai, mais qui sont censées rapporter plus. Vous avez votre argent à la caisse d'épargne. Si je vous demande de le retirer pour me le prêter dans une opération qui est plus risquée, qui va vous rapporter la même chose, normalement, il y a une petite lumière qui doit se venir dans votre tête, ou un œil qui doit commencer à cligner, et vous ne devez pas vouloir. Vous vous dites, attendez, mon pognon, il est bien. Si je dois prendre plus de risques, il faut que ça me rapporte plus, sinon j'ai aucun intérêt à le faire. Et donc, vous avez une zone qui n'est pas franchement pertinente. Et alors tout ça est théorique, bien sûr, la courbure est théorique et la pente aussi, mais en gros, vous êtes sur ce qu'on appelle une zone d'efficience, où tant que vous êtes là-dessus ou au-dessus, tout va bien. Si vous êtes en dessous, on peut quand même s'interroger sur la perception que vous avez de la corrélation de votre risque avec votre rémunération par rapport à ce que vous avez pris. Alors bien évidemment, lorsque vous êtes ici, et l'exemple des actions est un bon exemple, vous n'êtes pas sûr d'avoir cet argent-là. Vous avez une espèce de volatilité où ça, c'est censé être une position médiane, et vous pouvez très bien surperformer par rapport à ça et sous-performer. Mais il est important de faire une espèce de crash test et de voir dans l'hypothèse la pire. Alors, dans votre exemple d'aménagement, c'est, je ne sais pas, moi, j'ai dépensé pour faire mes VRD, mais finalement, c'est un crash et je mets un an de plus pour vendre mes charges foncières. Donc, savoir où vous vous retrouvez. Parce que si dans cette hypothèse-là, vous avez une volatilité telle que vous vous retrouvez en dessous, c'est peut-être pas pertinent. Donc vous devez à chaque fois corréler cette partie-là. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc j'ai essayé de vous faire un truc à la fois ramassé, financier, pas trop ennuyeux et un peu urbain. Donc maintenant, je me propose de passer aux questions, s'il y en a.